Quelle place pour les migrants dans la formation professionnelle? C'est la question qui va nous accompagner tout au long de cette émission spéciale. À l'occasion de la journée de l'apprentissage, pour traiter de ce sujet, trois personnes sont avec nous jusqu'à 13h en direct de notre studio de Delémont. Christophe Catin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général d'Avenir Formation et chef du service de la Avenir et Formation et chef du service de la formation. Rappelez-nous brièvement, Avenir Formation, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est l'unité de formation continue du CEGEF qui dispense les cours pour les adultes dans différentes catégories de types de brevets, de cours du soir, ainsi qu'un certain nombre de cours pour des publics peu qualifiés et notamment les migrants.
Migrants, donc nous avons un avec nous aujourd'hui autour de la table, c'est vous Yassine Hassani, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez 24 ans, vous venez d'Afghanistan, avez suivi une formation pour entrer en apprentissage. Dites-nous, où est-ce que vous en êtes dans votre parcours professionnel actuellement?
En fait, moi je vais vous dire que en 2017, on avait un projet pré-app. Après j'étais 6 mois dans ce projet. On a continué à la fin, j'ai trouvé une place de pré-apprentissage que actuellement je travaille comme aide-cuisine.
Et vous avez signé un contrat pour entrer en apprentissage cette fois?
Oui, j'ai déjà signé mon contrat pour faire un AFP au mois d'août.
Donc, félicitations.
Merci.
Avec nous également Barbara Vermeaud-Desroches, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, vous travaillez dans le Jura avec des pré-apprentis de l'école professionnelle. Et depuis l'année dernière, vous donnez des cours à des migrants. Dites-nous, qu'est-ce que vous enseignez, quoi?
Donc à ces classes de migrants, j'ai enseigné les maths principalement, mais on leur enseigne aussi le français et la culture générale notamment. Mais ma mission principale était de leur enseigner les maths sur les deux sites qui étaient Delémont et Porrentruy.
Vous suivez combien de classes?
Donc l'année dernière, j'ai suivi les deux classes qui se trouvaient au lycée cantonal à Porrentruy.
Dites-nous, Christophe Catin, intégrer les migrants au moyen de la formation, l'intégration professionnelle, à terme l'emploi, c'est quelque chose dont on entend souvent parler comme un bon vecteur d'intégration. Dans le Jura, vous avez mis sur pied un programme assez novateur, c'est le programme Prépa. Dites-nous, comment est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce que c'est Prépa?
Alors c'est parti de l'AJAM, l'association jurassienne d'aide aux migrants. L'AJAM qui nous a contacté Avenir Formation pour proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans issus de l'asile une préparation, une formation qui leur permettrait d'entrer dans le circuit de formation professionnelle. Le constat actuel, c'est que seuls 20% des personnes issues de l'asile ont une activité professionnelle qui permet de satisfaire à leurs besoins. Pour les autres, ils sont dépendants de l'aide sociale. Et la solution pour améliorer cette situation passe par la formation professionnelle. Mais quand on a des jeunes qui arrivent, comme c'est souvent le cas, entre 14 et 16 ans, c'est effectivement très difficile de les faire entrer en apprentissage, en CFC, en AFP, sans avoir des mesures préalables. Et c'est là que l'AJAM, avec le soutien de la Confédération, est intervenu, que nous avons développé un projet presque pilote, je crois que c'est un des premiers en Suisse, pour permettre à ces jeunes, dont Yacine qui est à côté de moi ici, pour permettre à ces jeunes d'entrer en pré-apprentissage. Alors, il ne s'agit pas encore de choisir un métier, mais il s'agit de pouvoir signer un contrat avec une entreprise qui va faire travailler l'employé pendant 3 jours, et qui viendra ensuite 2 jours à l'école pour suivre des cours de formation générale.
Barbara Vermeaud-Desroches, c'est vous, entre autres, qui suivez ces jeunes au tout début, donc on est avant le pré-apprentissage.
Oui.
Vous avez l'habitude d'enseigner, de donner des cours à des pré-apprentis cette fois. Comment est-ce que vous adaptez votre pédagogie? Qu'est-ce qui est vraiment spécifique à ces jeunes-là? Vous ne donnez pas les mêmes cours quand même.
Au niveau du pré-apprentissage?
Du prépa.
Ah, au niveau avant. Du prépa, non, on ne donne pas les mêmes cours. C'est principalement orienté sur les cours de français. Donc ils ont eu principalement des cours de français, des cours de maths, mais aussi des cours de culture générale et même de sport en dernier lieu. Mais c'est effectivement particulièrement axé sur l'apprentissage de la langue, clairement.
Yacine Hassani, quand vous êtes arrivé il y a quelques années en Suisse, vous parliez pas du tout français?
Non, pas du tout. J'ai appris le français ici. Ça fait 4 ans que je suis là. En fait, depuis 2014 que je suis arrivé, presque une année et demie, je n'avais pas le cours de français. En fait, après une année et demie, j'ai reçu une lettre et j'ai commencé un cours de français chez Communica. Par semaine, 2 jours, après par jour, 1 heure et demie.
C'est ce qui a vraiment, qui vous a permis de progresser aussi via ces cours prépa. Là, vous avez vu une différence par rapport avec l'année où vous étiez sans formation.
Oui, il y a très différent été entre deux. Parce que comme le préap, on a toujours l'école, on parle français, on apprend de plusieurs des choses que l'autre cours.
La langue, justement, c'est aussi un des prérequis pour entrer en prépa. Christophe Catin, vous demandez quand même un niveau de langue A1.
Oui.
Pour entrer, qui a un niveau, entre guillemets, assez faible, mais quand même, on part d'assez loin. C'est des gens qui ne parlent pas du tout français. Ça peut représenter un saut assez important, déjà.
Alors, ça peut représenter un saut très, très important, en particulier si on n'a pas l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, pour tous ceux qui viennent d'un univers arabe, voire asiatique, où il faut, au départ, commencer par un processus d'alphabétisation qu'on sait être long et difficile. Et c'est vrai que nous avons mis comme critère une connaissance A1 qui représente le premier échelon dans l'acquisition des bases d'une langue qui en compte 6. Je dirais que la plupart arrivent assez rapidement à ce niveau A1. Par contre, la progression est extrêmement variable en fonction du niveau de scolarisation qu'ils ont eu dans leur pays. On constate par exemple que les Syriens ont un système scolaire assez avancé qui leur permet finalement d'acquérir les techniques d'apprentissage beaucoup plus, de façon nettement meilleure que certains autres pays où le système scolaire est beaucoup plus faible.
Barbara Vermeau-Desroches, je me tourne vers vous. Christophe Catin nous dit, le niveau peut être très différent à l'entrée en tant qu'enseignante. Est-ce que vous arrivez quand même à tous les tirer à peu près au même niveau ou ça demande des adaptations? Ça peut être difficile parfois.
Alors, les adaptations qui ont été faites, c'est qu'en fait, ils ont passé des tests et en fonction de leurs résultats à ces tests, ils ont été distribués en fonction de leur niveau dans deux classes différentes, en fait. Donc le français était enseigné en fonction du niveau qu'ils avaient atteint au test. Donc les cours ne sont pas donnés de la même manière donc à des personnes un peu plus avancées et d'autres qui sont vraiment dans les bases d'alphabétisation, comme l'a dit M. Catin tout à l'heure.
Vous enseignez les maths notamment, on peut se dire que c'est un langage universel, mais là aussi c'est pas forcément évident, dites-nous.
Non, pas forcément, justement parce que la barrière de la langue est présente à tous les niveaux, même en maths, où typiquement des consignes ou des exercices faits sous forme de problèmes, eh bien, il y a de nouveau la barrière de la langue qui est présente pour la compréhension même, en fait, de ce qu'il aurait demandé.
Alors, on va justement aller faire un tour dans une classe. Hein, c'est en compagnie d'Alexandre Rosset qui a assisté à une leçon lundi. Écoutez.
Efficace, vous comprenez ce que c'est ?
Efficace, quelque chose que ça fait du bien, c'est...
Ça a un effet, hein? Efficace qui a un effet.
Comment
j'arrive à mon but.
Effect, comment?
Oui. Philosophe.
Oui, j'arrive à mon but, si je suis efficace. Je fais un travail efficace, au bout du compte, il y a un résultat.
Je m'appelle Laurence Frey-Parot et je suis enseignante ici dans une classe pour jeunes migrants. Et je suis aussi responsable de filière à Avenir Formation.
Quel est l'objectif de cette formation pour eux?
L'objectif, c'est de les préparer pour qu'ils puissent entrer dans ensuite le cursus traditionnel suisse de la formation, soit dans une offre de transition comme un pré-apprentissage ou alors dans une formation professionnelle, mais plutôt une AFP.
C'est des jeunes qui ont quand même déjà quelques bases, par exemple en français, ou on recommence depuis le début?
Alors, dans cette structure, on a trois classes où les élèves sont répartis par niveau de français. Classe 1, 2, 3, ici vous êtes dans la classe 3 qui a le meilleur niveau. Ils ont maintenant acquis un niveau B1.
Il faut que vous évitiez de vous asseoir au bord de votre siège et de vous frotter les mains.
Pourquoi il ne faut pas faire ça? Comment ça se fait s'asseoir au
bord du siège? Je suis nerveuse.
Ah, et vous frottez les mains. Voilà, ça montre la nervosité.
Je m'appelle Fahd Al-Halabi, je viens de la Syrie. Je suis ici depuis 2 ans en Suisse.
Pourquoi vous participez à ces cours ici?
Je suis ici pour chercher une place d'apprentissage, n'importe quel domaine.
Il y a peut-être un domaine qui vous plairait plus que d'autres?
Oui, je cherche une place d'apprentissage pour dissenture génie civile parce que j'aime mesurer les bâtiments, dessiner, aussi j'aime utiliser les ordinateurs.
On va maintenant écouter l'enregistrement de quelqu'un qui est en entretien d'embauche. et vous allez essayer de voir par rapport à ses conseils, est-ce qu'il fait bien ou est-ce qu'il ne fait pas bien. D'accord. Donc vous devez faire, quels sont ses points forts, vous observez tous, qu'est-ce qu'il fait de bien, les points forts. Et les choses à améliorer.
Je m'appelle Mirwais, je viens d'Afghanistan. Grâce à cette formation, je veux faire dans le futur, dans le domaine de la santé. C'est un métier que mon métier préféré.
Quel métier dans la santé vous intéresserait le plus?
De plus, plutôt travailler avec des personnes âgées dans un home ou devenir un infirmier, travailler dans un hôpital.
Dossier 2, leçon 3. Clé pour la réussite.
Alors, on l'a entendu, des cours très pratiques, très orientés vers les résultats. Barbara Vermeaux-Desroches, c'est aussi le cas de vos cours de maths et de français, par exemple?
Au niveau du prépa ou au niveau du pré-apprentissage par la suite?
Déjà du prépa.
Au niveau du prépa, alors c'est principalement orienté sur le quotidien. Donc c'est vrai qu'on est pas mal dans des lexiques, justement, de langage pour qu'ils puissent s'exprimer au quotidien dans des situations bien précises, telles que dans un magasin ou dans leur vie quotidienne par rapport à ce qu'ils portent sur eux, par exemple. Et puis, dans les maths, c'était vraiment une volonté de revoir, en fait, ou de reprendre tout ce qui est du cursus de l'école obligatoire en Suisse pour, justement, leur faciliter l'entrée dans une formation telle que le pré-apprentissage ou une AFP, par exemple.
Mais parce que vous le dites, après, quand ces jeunes passent du prépa au pré-apprentissage, là, ils sont avec des pré-apprentis qui ont fait toute leur scolarité dans la région.
Exactement.
Alors, comment se passe ce saut, on peut dire, de prépa au pré-apprentissage? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait un petit peu dans la douleur des fois, quand même?
Alors, je pense que Yacine sera plus à même de répondre à cette question que moi, mais je pense qu'effectivement, le saut est assez conséquent, parce qu'en prépa, le saut au niveau de l'autonomie principalement, parce qu'en prépa, on est quand même particulièrement attentif à leurs besoins et à ce que peut être en fait cette arrivée en Suisse et les problématiques inhérentes. Qu'en pré-apprentissage, vous le faites bien remarquer, en fait, ils sont noyés, si je peux me permettre le terme, en tout cas intégrés au maximum dans des classes avec des élèves qui ont fait leur scolarité obligatoire en Suisse.
Et ils travaillent. Et ils sont en activité professionnelle, donc sans encadrement spécifique.
Mais Yacine Hassani, dites-nous, vous le ce passage entre le prépa et le pré-apprentissage, et maintenant l'apprentissage, puisque vous allez commencer prochainement, comment est-ce que ça s'est fait? C'était quand même une grande différence pour vous?
Oui, parce que pour la pré-app qu'on était, on était tous les migrants. Après, on a parlé souvent quand il y a des Afghans dans la classe, on parle notre langue. Des électriens aussi, ils parlent leur langue. Après, là que je suis au pré-apprentissage, dans notre classe, il y a des Suisses, des camarades qui parlent toujours le français pour améliorer, pour intégrer le langue aussi. On a le cours un peu plus haut que pré-app, un peu le maths, tout, le français.
Sans compter tout ce qu'il y a autour de l'enseignement, vous avez quand même des parcours de vie, on peut l'imaginer, très différents. Est-ce que vous arrivez à partager avec ceux qui sont issus d'un parcours classique, qui ont grandi dans la région? Il y a des contacts entre vous?
Oui, mais pas trop.
Ça reste quand même difficile.
Oui, un peu.
Ça a été un des grands enjeux et un objectif principal de des dernières mesures de correction qu'on a essayé d'instaurer dans le prépa, c'est de faire en sorte qu'il y ait en même temps une intégration sociale. Et qu'on s'est rendu compte que tant que les jeunes migrants restent entre eux à la sortie des classes, c'est difficile de les faire progresser au rythme où on voudrait. Et le fait que les clubs de football acceptent, par exemple, des migrants pour venir s'entraîner avec eux, le fait que les clubs de sport, des sociétés, quelles qu'elles soient, prennent ces jeunes migrants et que les migrants fassent l'effort aussi d'aller dans ces sociétés, participent énormément à leur progression.
Il y a un autre aspect que je voulais aborder avec vous en préparant cet entretien. Vous me disiez, c'est des parcours de vie très différents. Ces migrants sont des fois un peu plus âgés. Ils ont parfois aussi des enfants avec tous les besoins d'argent que ça implique. Comment est-ce qu'on les motive à revenir dans une formation et à pas aller travailler directement
C'est vraiment la grande difficulté. Hein. Il faut se rendre compte que ce sont les gens qui arrivent, qui ont parfois 20, 21 ans, 22 ans. Ils ont même peut-être des familles. Et une de leurs principaux objectifs, c'est de travailler, de gagner de l'argent. Et nous, tout notre travail, c'est de leur expliquer, de leur faire accepter que le processus de formation sera long et qu'il ne faut pas sauter les étapes. C'est qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se retrouver dans un emploi stable, fixe. Et en Suisse, en général, on sait qu'on ne les garde pas, hein, ces gens-là. Donc, la motivation, c'est finalement le point stratégique de notre concept pédagogique, c'est-à-dire on va non pas faire du français pour apprendre le français, on va avoir un certain nombre d'activités qui vont mettre en évidence des besoins de français. C'est la même chose pour les maths, c'est-à-dire on va pas faire des maths pour des maths, mais on va avoir des activités dans lesquelles on se rend compte qu'on est obligé d'apprendre un certain nombre de notions mathématiques, sans quoi on n'arrive pas à avancer plus loin. Alors le meilleur exemple, c'est l'entretien d'embauche, c'est facile, mais on a des dizaines de scénarios comme ça, aller chez le médecin, l'école, les commissions, où finalement on met le jeune devant ses besoins et on le pousse à se rendre compte de lui-même des exigences. Et en général, ça marche plutôt bien.
Sans compter qu'aussi au niveau du choix de carrière, il y a certains secteurs qui ont plus de demandes que d'autres. C'est pas forcément là où les jeunes veulent s'orienter le plus. C'est quoi les secteurs les mieux représentés, qui engagent le plus?
Alors actuellement, c'est plutôt les métiers de bouche. C'est les secteurs de l'artisanat, du second œuvre. C'est certaines catégories de métiers techniques et partiellement les métiers de la santé, bien qu'il y a là souvent des difficultés. Mais les jeunes, vous avez entendu tout à l'heure dans le reportage, ils ne veulent pas forcément aller dans l'hôtellerie. Et Yacine encore m'en parlait tout à l'heure. Hein, vous, oui. vous évoquiez les jeunes. Je ne sais pas si je
comment ça s'est fait pour vous, justement. Oui, dites-nous le choix. Oui,
le seul problème, parce que les gens qui arrivent ici tout de suite, c'est difficile de comprendre les systèmes. Comme moi, quand je suis arrivé, j'ai envie de travailler après 2 ans. À un moment donné, j'ai évité parce que c'est mieux faire une formation, un AFP, pour la futur, pour la gagner mieux notre vie comme ça.
Et c'est vrai qu'on a des places aujourd'hui ouvertes de pré-apprentissage pour lesquels on n'arrive pas forcément à trouver la bonne personne parce que les jeunes ne veulent pas forcément aller dans la maçonnerie parce que c'est difficile dans tout ça. Donc les problèmes qu'on a avec les jeunes de la scolarité obligatoire, on les retrouve, mais dans une moindre mesure, parce qu'on arrive quand même, au bout de quelques temps et quelques stages souvent, à les motiver et à les convaincre que ce premier pré-apprentissage ou cette première AFP, c'est une étape dans un parcours qui pourra les mener dans des secteurs professionnels complètement différents.
Alors, la seconde volée de prépa va se terminer cet été.
Oui.
Après voilà, deux volées, une fois 6 mois, une fois 9 mois. Oui. Quel premier bilan est-ce que vous pouvez tirer? Est-ce que vous avez déjà quelques premiers chiffres? Alors, est-ce que ça fonctionne bien?
Oui, pour la première volée, on était vraiment enthousiastes parce qu'on a eu une cinquantaine de jeunes qui sont entrés en formation. Parmi ces jeunes de différents niveaux, hein, on a signé 17 contrats de pré-apprentissage. Il y en a 17 qui n'avaient pas atteint le niveau de français requis pour entrer en pré-apprentissage, qui ont recommencé une deuxième fois le prépa, et 17 autres qui finalement se sont dirigés vers d'autres voies, soit des voies de travail, soit des voies de autres. Et parmi ces 17 donc, qui ont commencé le pré-apprentissage, on a déjà plus que 10 qui ont déjà signé, comme Yacine à côté de moi, le contrat suivant de CFC ou d'AFP. Donc ça, c'était vraiment un succès important. Actuellement, on en a 39. J'avoue que les contrats de pré-apprentissage qu'on a signés ne sont pas encore aussi importants que ceux de l'année passée, mais on fera le bilan au mois de juillet, ce sera assez tôt.
On entend des premières perspectives assez encourageantes. En tout cas, ce sera le mot de la fin. On arrive déjà au terme de cette table ronde. Merci à tous les trois, Christophe Cassin d'Avenir Formation, Barbara Vermeaud-Desroches, enseignante, et Yacine Hassani, futur apprenti et participant au programme Prépa.